Bienvenue dans cette balade sonore sur le quartier Matungé. Laissez-moi vous y accompagner. Je suis Patricia et je connais ce quartier depuis toute petite. Je vous attends à la gare du Midi de Bruxelles, devant l'entrée du métro au numéro 46 de la rue Foncenis. Soyez prêts pour une marche de 1h15.
Vous êtes là ? Vous m'entendez ? Ils m'ont parlé de vous, la personne avec les écouteurs. Êtes-vous prêt à plonger dans le quartier africain de Bruxelles ? Laissez-moi vous orienter dans ces rues et ces rencontres, vous faire découvrir mon Matungé. Ces rues, c'est les miennes. Je fais partie de ces gens qui vivent au rythme de Matungé.
Toujours ensemble.
Toujours changeant. Ici et maintenant, devenez mon invité, mon spécial guest.
Je vais prendre soin de vous.
Avant de commencer le voyage, vous devez comprendre quelque chose. Il va falloir que nous soyons un...
Que nous marchions d'un même pas.
Pas à pas. Que vous observiez aussi. Trouviez mes points de repère. Rendre les bons tournants.
Dans votre tête.
Pour vous emmener sans doute dans des lieux où vous n'auriez jamais pensé aller. Partager des points de vue et des préoccupations qui sont pourtant...
Les miennes. Je suis peut-être là, moi aussi, à vous regarder.
Alors respectez les personnes que vous allez croiser. Ne les fixez pas, même si vous êtes seulement en train de m'écouter. Préservez-vous en premier.
Si vous ne le sentez pas, prenez un autre chemin. Et retrouvez-moi au prochain point de repère.
Restez dans le flow, car si quelqu'un dans la rue vous interpelle, n'oubliez pas, je ne suis pas là. Je suis juste une voix
dans votre tête.
Avant de partir, vous pouvez sûrement apercevoir des Africains sur le trottoir, en face, devant l'hôtel Ibis.
La gare du Midi est une jonction pour l'Europe et à l'intérieur de la Belgique.
En plus du train, il y a beaucoup de voitures collectives qui s'organisent pour filer directement sur Paris.
Prêt ?
Descendez dans le métro et traversez le couloir pour prendre la ligne 2, P6, direction Elisabeth. Si vous voyez sur la gauche en descendant les casiers de poste restants, blanc et rouge de Bipost, vous êtes sur le bon chemin. Continuez tout droit. Traversez et poinçonnez votre ticket.
Avez-vous repéré le bon escalator qui descend, celui pour la ligne 2 et 6, direction Elisabeth ?
Descendez et installez-vous dans la rame dès qu'elle arrive.
Asseyez-vous.
Si cela dure, observez comment les voyageurs se répartissent sur le quai.
La plupart du temps, les hommes et femmes africains qui vont descendre avec vous à la station Porte de Namur, dans 4 arrêts, restent proches de l'autre escalator. Allez de ce côté.
Matungé est comme cela, un lieu de convergence. Il est connu de par le monde comme la capitale européenne de l'Afrique. Pourriez-vous vous mettre pendant une heure dans la peau d'un immigré qui débarque pour la première fois en Europe? Si lui va retrouver à Matongé un peu de Chili, pour vous, c'est comme aller un peu en Afrique. Vous vous rendez compte? Autre travers, autre us et coutume. En quoi cela va vous changer? Vous êtes la veille de son départ et le lendemain sera une autre vie, totalement différente pour vous de ce que vous avez vécu actuellement. Bienvenue à Matongé, un lieu africain à Bruxelles. Un lieu qui permet aux personnes africaines en migration, un lieu qui permet aux personnes d'origine africaine de se retrouver ici et maintenant.
Pour rester ensemble dans notre cohabitation sonore, écoutez l'histoire de Maïcha et du roi Léopold II. Puis, mettez ma voix en pause, jusqu'à l'ouverture de la porte à la station Louise.
Mon arrière-grand-père, mes arrière-grands-pères maternels, hein, eux, ils sont arrivés au Congo bien avant les années 60. Ils sont arrivés au Congo dans les années 20, même un peu avant. Donc, il y a eu une génération d'enfants métis qui étaient pour le plus souvent... Donc, ils étaient élevés dans un milieu catholique et tout. Donc, ils avaient aussi accès à l'éducation, à plus d'éducation, peut-être qu'une personne noire de classe moyenne. Il y a eu la création d'une classe sociale métisse. Beaucoup n'ont pas été élevés par leur mère parce qu'on ne pouvait pas laisser des enfants blancs à des noirs, mais en même temps, ils n'étaient pas blancs. On ne pouvait pas laisser des enfants noirs avec des blancs. C'était une espèce d'abomination de la nature, hein, d'où ce terme en mulâtre. Hein, et donc, on les a confiés à l'Église. C'est un groupe social à part entière, hein, les métis à ce moment-là, pas du tout par hasard. Parce que, en tout cas, dans ma famille, et dans l'entourage de ma famille, dans leurs amis proches, c'est beaucoup d'autres enfants qui ont le même truc, des enfants de métis et tout machin. Souvent, les pères se sont connus à l'école et ma grand-mère, on l'a mise, littéralement, avec mon grand-père, très jeune, elle avait 14-15 ans. Elle a eu 10 gosses derrière. Voilà, il y a quelque chose qui est très... début du XXe siècle. Et c'est une réalité. Ma mère, tous ses amis, enfin, beaucoup de ses amis maintenant, qu'elle voit encore ici maintenant, qui sont aussi revenus et tout machin, en Belgique, après la guerre civile dans les années 90, sont des métis, issus aussi de couples de personnes métis, de pères qui ont été élevés par les catholiques et qui avaient de bons postes, de fonctionnaires, qui avaient au finish une belle vie, parce que du coup, ma mère, elle a 9 frères et sœurs. Ils sont allés à l'université, ils avaient des terrains, des trucs, donc c'est une certaine élite.
La commune d'Ixelles a toujours été une commune bourgeoise. Si vous descendez à Louise, un arrêt de métro avant Porte de Namur, vous seriez avenue Louise, l'avenue commerçante belge la plus chic et bourgeoise du royaume.
Et vous vous en doutez, si on appelle cette avenue Louise, c'est en l'honneur d'une des 3 filles du roi, Léopold II, qui a refaçonné cette partie de la petite ceinture de Bruxelles, sans doute avec l'aide de l'argent de sa colonie. S'il n'était mort en 1909, ce roi bâtisseur aurait-il construit le Valhalla qu'il avait souhaité, porte de Namur entourée de jardins et de luxueux hôtels? Vous pourrez le constater vous-même, il n'y a pas de Valhalla porte de Namur, ni de jardin non plus. Mais sa statue équestre prône entre le palais, faisant face au quartier Matongé. Je ne sais pas comment Léopold II s'est débrouillé pour récupérer ce pays de 80 fois la taille de la Belgique et à titre personnel en 1885. Mais en 1908, il doit le céder à l'État belge suite au scandale de l'exploitation de la population dénoncé dans les journaux étrangers. Les bénéficiaires, par la suite, sont-ils restés les mêmes? Des sociétés ayant trempé dans la colonisation comme la Société Générale, la Banque Lambert et la Banque de Bruxelles se sont depuis fondues dans les banques Fortis, BNP Paribas ou ING. La banque ING a son siège social à 2 pas de la porte de Namur, en face du palais.
Qu'en est-il actuellement pour le Congo, depuis l'indépendance en 61? On a dit que l'État belge aurait eu ensuite des relations plus que troubles avec Mobutu. Quand tu arrives à la station Porte de Namur, suis la majorité des gens qui prennent l'escalator. Il y a deux sorties. Va vers celle qui mène au bus.
La station a été construite dans les années 70. Le soir, beaucoup de SDF s'y retrouvent, profitant d'une collation et de l'écoute des maraudeurs de la Croix-Rouge. De 1h15 à 4h30, la station est fermée pour y permettre la maintenance. Il y a tant d'issues pour rentrer sur le réseau de la STIB que les équipes de surveillance renvoient inlassablement ces habitants clandestins pour éviter qu'ils ne s'agressent ou ne tombent sur les voies sous la responsabilité de la STIB.
Restez dans le flou. Quand vous montez le deuxième escalator, si vous avez dans le dos une grande publicité pour KLM qui dessert l'Afrique, alors vous atterrissez au bon endroit. Voyager au pays, retrouver une part de soi, connaître d'où ses parents viennent, connaître d'où sa famille vient, c'est nécessaire. Mais les billets sont chers. Je retrouve ici une partie des produits et l'ambiance africaine. Les amis et tous ceux qui font ma tombe. À la sortie du métro, prenez le temps de regarder, de marcher autour de la station. En face de vous, il y a un nouveau magasin de vêtements Uniqlo. Avant, ici c'était le Quick d'XL, où on se donnait toujours rendez-vous avec les copines. Et encore avant, bien avant, il y avait un des seuls cafés belges qui permettait aux rares Africains présents sur le sol belge de s'y réunir. C'était principalement des étudiants venus après l'indépendance.
Prenez le temps d'observer tout autour de vous, pas seulement les bâtiments, mais aussi les gens. Je vous préviendrai quand ce sera le moment de repartir.
Chacun son rythme.
Le quartier est toujours en changement, brassant une population aux origines, aux classes sociales très diverses, au maillage associatif dense, ASBL, associations, comités de commerçants, collectifs informels de voisins ou d'initiatives artistiques, participatives, citoyennes.
Ce qui n'a pas changé depuis 10 ans, c'est ce monsieur aux yeux bleus qui fait la manche dans cette station de métro. Je le croise toujours, sauf le dimanche. J'aurais voulu lui demander ce qu'il pensait de toutes ces personnes qu'il voyait défiler continuellement devant lui depuis toutes ces années. Mais il ne parle toujours pas français, et moi toujours pas roumain, même si je parle déjà 4 ou 5 langues. Maintenant, ce monsieur roumain est rejoint par des dames qui vendent du safo, un petit fruit qui ressemble à une aubergine. Cela s'écrit S-A-F-U, car le U à l'africaine se prononce OU. Comme par exemple Mobutu, qui s'écrit Mobutu. Si les mamans ne sont pas là, vous trouverez des safo dans une épicerie que je vous indiquerai. Bienvenue dans les raisons informelles de Matongé. Ici, on trouve de tout.
Venez, c'est le moment de se mettre en route. Direction la galerie Porte de Namur. À gauche, en sortant du métro. La galerie Porte de Namur, la galerie Matongé, ont été construites ensemble. Elles se rejoignent à la chaussée de Wavre, le centre de Matongé. Entrez dans la galerie Porte de Namur. Déambulez jusqu'à sa sortie, chaussée de Wavre, puis allez à gauche, dans un des nombreux supermarchés de cheveux.
Bienvenue à Matongé, un lieu africain à Bruxelles, un lieu en couleur, qui vit au tempo de ceux qui prennent le temps de le passer ensemble, le temps partagé.
Souvent à l'entrée du métro ou de la galerie
Porte de Namur,
des coiffeuses recherchent des clientes. Ce qui peut être exaspérant quand on habite le quartier
ou qu'on préfère garder ses cheveux au naturel. Les occidentales
elles, sont moins sollicitées. De toute façon, on ne confie pas ses cheveux à n'importe qui. Des jeunes femmes viennent de toute la Belgique ou même de Paris pour se faire coiffer ici. Parfois, c'est l'inverse. Elles vont à Londres pour se faire belles. Chaque mois, je dépense entre 100 et 150 euros pour ma coiffure et ma manicure. Nous, les femmes africaines, nous sommes stylées et nous valons la totale. Ne me défigure pas. Chaque mois, nous passons des heures au salon de coiffure. Ce sont de longues séances auxquelles n'échappent pas les petites filles. Il y a déjà le défrisage qui te brûle le cuir chevelu, puis la coiffeuse te fait un tourniquet en attend serré sur ton crâne tes cheveux en spirale. Sur ce tourniquet, elle coud une perruque ou des mèches, sorte de long ruban où sont cousus des cheveux. Elle coud avec une aiguille, soit droite, soit courbe. Cela dépend de la douceur ou de l'attention de ta coiffeuse, mais je peux te dire que mon crâne, lui, préfère quand c'est une aiguille courbe. En coiffure tissée, le plus important est d'être dans un équilibre. Serré, le tourniquet tiendra plus longtemps, mais cassera tes cheveux et la prochaine fois, tu te retrouves sans ces petits cheveux au-dessus du front, qui, entremêlés aux faux cheveux, rendent naturelle ta nouvelle coiffure. Nouvelle coiffure, une photo pour mes copines. Je suis une nouvelle femme. Mon homme n'aura pas à chercher la nouveauté ailleurs.
Si vous n'y êtes pas encore, sortez de la galerie et sur la gauche, entrez dans un supermarché de cheveux.
Je me demande combien de temps il nous faudra pour que nous ne soyons plus tous tirés à quatre épingles. Surtout les enfants, du plus petit au plus grand, pour avoir l'air respectable, impeccable, à tout moment en société. Côté matière, la qualité du cheveu varie. Des cheveux synthétiques, aux chinois, aux brésiliens, aux péruviens. En haut de gamme, une perruque aux cheveux longs peut coûter jusqu'à 250 euros. Entretenue avec soin, lavée comme de vrais cheveux, elle pourra durer des années. Si je vais acheter mes mèches dans n'importe quel supermarché, Chaussée de Wavre, j'ai aussi rencontré une femme qui voyage en Chine pour ce commerce, pour trouver directement des produits de qualité. La boutique de Marie-Espérance est au numéro 200. Dans cette partie de la Chaussée de Wavre, qui est plus éloignée du métro, donc moins agitée, si tu y passes, ne t'inquiète pas, c'est ouvert, même si le volet est à moitié fermé. Comme bien d'autres, elle est la descendante de ces femmes commerçantes congolaises avisées, qui ouvrent aussi des magasins de pagne dans les années 70, colorant le quartier.
Sortez du supermarché, à gauche, et marchez Chaussée de Wavre, dans le sens croissant des numéros.
Les pannes sont d'ailleurs de purs produits européens, empruntant même certains motifs à la culture indonésienne.
Les pagnes sont portées pour les grands événements. Ils peuvent être commémoratifs. Pour un événement national, on peut même imprimer un nouveau motif. Pour les mariages, les familles confectionnent des habits sur mesure, pour se distinguer, avec un tissu pour la famille de la mariée et un autre motif pour son mari. Le wax brillant est plus cher. En Afrique, des ballots de vêtements de seconde main d'Européens cassent le marché des tailleurs sur mesure.
Je couds quand mes enfants sont à l'école ou chez leur père. Ma maman me l'a appris. Je couds quand je ne suis pas en cours pour être aussi secrétaire, un emploi fixe. J'ai mon style et vends aussi via Facebook ou Instagram.
Vous trouverez différents couturiers sur mesure, bien sûr, dans le quartier. Dans la galerie Porte de Namur, au sous-sol, sans fenêtre, trois couturiers travaillent dans 5 mètres carrés au bout d'un escalier en colimaçon.
Au 86 Chaussée de Wavre, en passant par le salon de coiffure, vous demanderez à aller chez le couturier. Devant son comptoir, une série de tabourets sont utilisés comme salon d'attente. Pas seulement pour les clientes. Les mamans s'y posent, à leurs pieds des sacs chargés d'emplettes hebdomadaires. Elles attendent une amie, un rendez-vous.
encore et encore, poste posé. À Matongué, si votre ami ne répond pas à l'appel, vous trouverez sûrement quelqu'un à qui parler. Car c'est avant tout cela, Matongué. Un concentré d'énergie et de rencontres
qui déborde parfois. Comme quand, après un événement, la foule s'en prend au commerce environnant, lui donnant une mauvaise réputation dans les médias.
Avez-vous remarqué que dans les pubs et les clips, même quand on montre une Africaine, elle est toujours métissée ou identique à une Occidentale, avec juste une peau plus foncée et surtout des jambes de gazelle. Les hommes noirs, en revanche, peuvent afficher des physiques et des visages plus foncés. Typés, la mode des rappeurs et des gangs a bien changé les choses. Porte de Namur, j'ai vu, de tout temps, des jeunes offrir un repas chaud à des SDF, prenant soin, à leur manière, de la communauté. C'est un peu le prolongement de l'aide qu'apportent les migrants dans leur pays d'origine. Comme ces jeunes le font, peut-être, comme leurs parents l'ont fait. Faites demi-tour, toujours sur la chaussée de Wavre, dépassez la galerie Porte de Namur et le cinéma Vendôme sur votre gauche, arrêtez-vous en face d'H&M, chaussée d'Ixelles.
Dès qu'un migrant pose un pied dans le pays de migration, il est sans cesse sollicité pour aider au pays. Il n'est pas rare que certains migrants s'endettent pour un ami, la famille, ou pour répondre à une certaine position sociale, avec pour résultat de n'avoir plus que 20 euros dès le 6 de chaque mois pour manger.
Bernadette, qui vit en Europe, mais qui fait beaucoup de projets en Afrique, nous en parle.
Quand on vend une maison familiale, quand on envoie quelqu'un au-devant, c'est parce qu'on dit ça casse ou ça passe. Et quand ça s'est passé et que les gens sont ici, en Europe, ils sont obligés d'envoyer, à envoyer de l'argent par exemple pour que les autres puissent aller à l'école, qu'ils soient malades. Et aussi quand les gens savent que vous avez un enfant qui est à l'étranger, tu es obligé un peu de frimer. Et ça devient une obligation. Moi, mon fils est en Belgique, ma fille est en Belgique, j'en ai Italie, tout ça. Mm-hmm. Ah, tu n'as pas une pagne, ta fille ne t'a pas envoyé parce qu'on sait que ta fille. Mm-hmm. Tu vois un peu? Et alors, c'est vrai qu'ils ont oublié qu'ils avaient des enfants ici. Mais déjà, comme on a des enfants ici, qu'on sait que l'école est assurée, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent s'habiller, on dit, mais c'est déjà ce que les autres souffrent là-bas pour l'avoir. Et c'est ça maintenant qu'il y a un grand problème de génération maintenant. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas voulu accepter. Vous n'avez jamais fait quelque chose pour moi. Bon, si j'ai eu ce problème-là, j'ai eu ce problème-là avec mon fils, hein, qui d'ailleurs, je peux même dire, 18, qui est un problème actuel. D'ailleurs, tu n'as jamais fait quelque chose pour moi, tu es toujours parti, tu es toujours en... Mais on est en train d'aider les autres, oui, j'aide les autres, tout le monde te dit, oui, je sais que vous avez fait un bon boulot au Congo et tout ça, mais finalement, nous, on n'a eu rien eu, quoi. Tu vois un peu?
Ici, en Belgique, le système d'aide sociale de type CPAS permet d'avoir une couverture minimum sociale, ce qui n'est pas le cas en Espagne et en Italie, par exemple. Encore faut-il avoir des papiers. Pourtant, la grande majorité des familles venant d'Afrique pourvoit aux besoins de la famille restée au pays en plus de celle-ci, accumulant deux boulots, la plupart alimentaires, bien souvent en dessous de leurs compétences universitaires.
Le système D est là aussi, pour compléter ou en travail principal. Si vous savez tresser les cheveux, il suffit de louer un siège dans un salon.
Ou de le faire savoir autour de vous pour vous rendre au domicile de votre cliente, ce qui lui permettra aussi de garder ses enfants et d'inviter ses copines. En plus du domicile de la cliente, des salons offrent souvent un deuxième étage plus discret que ceux en vitrine. Les contrôles varient suivant les époques. Comme pour les vendeurs de ganja, l'organisation informelle du quartier fait appel à des guetteurs.
Il n'est pas rare que, prévenus à temps, les coiffeuses échappent au contrôle, en s'asseyant simplement sur le fauteuil de leur cliente, avec une perruque sur la tête. Ce qui sera, après le contrôle, après, une source de rire dans le salon, évacuant le stress de la situation. La galerie Porte de Namur et la galerie Matongué ont été construites ensemble. La chaussée de Wavre est au centre du quartier.
restez un instant en face d'H&M, levez les yeux et écoutez une amie, Wetsi. Elle est historienne de l'art et militante. Nos enfants jouent ensemble au foot.
La reproduction de la toile de Chéri Samba qui se trouve sur la chaussée d'Ixelles. Chéri Samba, c'est un peintre populaire congolais. C'est pour ne pas dire le peintre populaire congolais le plus connu, qui a commencé au début de sa carrière à travailler peut-être sur des petits formats où il peignait sur des sacs de farine, un petit peu comme la plupart des peintres populaires congolais. Aujourd'hui, c'est un peintre qui peut se permettre de travailler sur des plus grands formats parce qu'il a beaucoup plus de moyens. Il a déjà une grande carrière. La reproduction de la toile de Chéri Samba qui se trouve à Matongé, donc une grande reproduction qui s'intitule Porte de Namur, Porte de l'amour, sur laquelle on voit différentes scènes réelles ou imaginées par l'artiste qui se passeraient dans ce quartier de Matongé. Et ce que je trouve personnellement assez dommageable par rapport à l'image de la femme congolaise qui est transmise à travers cette image, c'est qu'on aurait l'impression que la femme congolaise est lascive, qu'elle se prostitue. Alors, je ne dis pas que la prostitution est quelque chose qui n'existerait pas dans les communautés congolaises ou à Matongé, mais moi, personnellement, en tant que fille de Congolais en Belgique, quand je vais à Matongé depuis ma plus tendre enfance, accompagner ma maman pour acheter ses pagnes. Et moi, ce que je vois à Matongé, ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes commerçantes, ce sont des femmes qui m'ont vraiment, réellement inspirée et qui font aussi de moi qui je suis aujourd'hui.
À gauche, l'homme dont le cerveau est posé sur la table fait référence à la migration des intellectuels et autres scientifiques, dont le savoir manque à leur pays d'origine. Continuez sur la chaussée d'Ixelles, maintenant semi-piétonne, le McDo sur votre droite. Restez sur le côté, des bus circulent. Maintenant, nous n'irons pas jusqu'au Hector Tiken de la Toison d'Or. C'est là que ma maman et mes tantes aussi se donnent rendez-vous. C'est plus tranquille. Après la poste, sur votre droite, il y a l'entrée d'une galerie. Arrêtez-vous dans le hall, lisez le nom de la pharmacie en haut sur la vitrine. Pharmacie coloniale. À l'époque, on y trouvait tous les produits pour les voyages. Et maintenant, des produits pour défriser les cheveux. Continuez sur la chaussée d'Ixelles. Tournez à droite dans la rue Berger, à gauche rue Keienveld. En écoutant mon amie Maïcha, nous reviendrons ici devant le Burger King.
J'imagine que je ne suis pas autant racisée que beaucoup de personnes, mais je subis du racisme de manière excessivement régulière, tout le temps, des micro-agressions, des... Moi, j'ai minimisé ça pendant des années, pendant tout mon parcours scolaire. J'étais dans une école assez élitiste, il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur. Je pensais que j'étais relativement bien intégrée. Mais c'est vrai que des trucs dont je ne me rendais pas compte à l'époque, j'avais l'impression que ça ne voulait rien dire, alors que ça résonne encore maintenant, donc c'est que ça n'était pas si anodin. Mais tu sais, des trucs genre, je me souviens, quand j'étais plutôt petite, j'avais toujours les cheveux attachés. Ma mère me faisait toujours des tresses comme ça. Deux tresses comme une blanche, deux petites nattes, quoi. Voilà. Comme mercredi dans la famille Adams. Et quand je suis rentrée dans le secondaire, j'ai coupé mes cheveux et j'avais toujours lâché. Donc j'avais pas un afro parce que j'ai pas les cheveux assez crépus pour ça, mais une belle boule de cheveux bouclés. Et je me souviens que les premières semaines, j'ai eu tellement de réflexions de gens qu'après, pendant 2 ans, j'ai gardé mes cheveux attachés tout le temps. C'est des années plus tard que j'en suis rendue compte. Hein. J'avais mes cheveux attachés tout le temps. Puis après, j'ai commencé à aller au lycée pendant des années. Et puis après, je suis allée à l'UNIF. Et c'est là que je me suis... que j'ai arrêté de laisser mes cheveux et que je les lâchais, quoi. Parce que sinon, j'avais les cheveux avant qui étaient attachés tout le temps. Et je me suis rendue compte que très récemment, que c'était justement dû à cette peur. Parce que j'avais eu ces réflexions super jeunes. J'avais 11 ou 12 ans. J'avais vraiment intériorisé ça. Et pour éviter d'être à nouveau confrontée à ça, eh ben, j'ai attaché, j'ai lissé, j'ai essayé vraiment littéralement de lisser, quoi. Tout. Enfin, tout ce qui pouvait être... Quand on voit des photos de moi en 3e, 4e secondaire, j'avais une frange, j'étais habillée vraiment comme toutes les petites filles blanches et blondes et super minces de mon école. Alors, enfin, c'était ridicule, mais parce qu'on n'a pas d'autre représentation à ce moment-là. À part ma mère, mais c'est un autre âge aussi, donc c'est pas... Ou mes sœurs, mais c'était aussi un autre âge. Donc c'est vraiment la question aussi de la représentation qui est... Mais en fait, dans le jargon de la personne racisée, du racisme et tout ça, les micro-agressions, c'est des petites choses. Donc c'est pas genre « sale nègre, retourne chez toi ». Ça, c'est pas une micro-agression, ça, c'est une grosse agression. C'est plutôt des choses, en fait, justement, qui relèvent plus du lexique quotidien ou des petites choses qu'on dit régulièrement, qui passent pas comme étant méchants, mais qui, en fait, continuent à soulever la différence. Vu ma couleur de peau... Ça se voit que je suis typée, mais pas spécialement. Enfin, on pense souvent du coup que je suis maghrébine ou marocaine. Moi, ça, c'est quelque chose que moi, par exemple, j'adore. Je trouve ça génial. Ce côté un peu. Oh bon, je sais pas trop d'où tu viens. C'est que tu viens peut-être d'un peu ailleurs. C'est sympa. Souvent, en tout cas, ça attire la sympathie. Parce que c'est un peu. On se dit. C'est peut-être quelqu'un avec qui on a quelque chose en commun. Être multiculturel, c'est bien, machin. Et que donc, faut pas être trop clair non plus. T'as un peu genre. T'as les bons côtés, t'es pas fade, t'as un gros cul, t'as les beaux cheveux bouclés, mais en même temps, tu sens pas la sueur et tu sais nager. Enfin, un peu, tu vois, pour aller dans le cliché à fond, quoi. Y a un peu cette espèce de truc avec les métis, c'est vrai qu'il y a un... Après, ça c'est une discussion qu'on a souvent dans ma famille, parce que c'est pas comme s'il y avait 4 teintes différentes de couleur de peau.
J'espère que vous êtes allé jusqu'au numéro 48, rue Keienveld. Saluez Audrey. Maintenant, où que vous soyez, faites demi-tour et gardez le même rythme pour vous arrêter à côté du Burger King de la chaussée d'Ixelles.
Souvent, j'ai l'impression que je ne vais pas plaire parce que je ne suis pas blanche. Et c'est un truc très intériorisé, je pense, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens de ma génération ou des milieux que j'ai fréquentés qui, honnêtement, ne disent jamais un truc pareil, quoi. Mais moi, c'est quand même un truc que je me suis dit pendant vraiment longtemps. Genre, non, surtout quand je traînais dans des milieux plus bourgeois, plus traditionnalistes et tout, et c'est super cliché de ma part, enfin c'est super, je dirais pas raciste de ma part, parce que n'exagérons pas, mais il y a aussi un biais que moi je me dis, les gens qui sont trop bourgeois, trop tradis, trop machin, ils vont jamais sortir avec une fille noire. Donc c'est aussi des trucs qu'on intériorise hyper fort. Et c'est fou, parce que même se déconstruire soi-même, c'est un travail titanesque. Même quand j'entends des trucs que ma mère dit, enfin, je me dis, c'est dingue le nombre de stéréotypes et de clichés et d'idées reçues qu'on peut intérioriser et de facto après, en fait, appliquer à nos vies. C'est... fascinant et effrayant à la fois. Ouais.
Voilà, c'est bon. Merci.
Vous pouvez vous J'ai pas de questions de m'excuser parce que je fais mon travail. J'espère que c'est bien. Voilà.
Qu'est-ce qu'il t'a dit ?
On va même parler de ce qui vient de se passer. C'est pas quelque chose d'anodin pour nous, des choses qui arrivent assez régulièrement. Ouais. On correspond toujours à des descriptions. Il me sort l'argument du pull noir, ce monsieur a également un pull noir. Il suffit de porter un pull noir, n'est-ce pas, pour correspondre à une description. Comment ils se sont adressés à vous ? Discours de 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba. Qui oubliera qu'un noir on disait tu, non certes pas comme un ami, parce que le vous honorable était réservé au seul blanc. C'est ce qu'on vit encore un peu avec la police aujourd'hui. Quand ils s'adressent à vous pour leur description et pour les contrôles aux faciès auxquels on a droit régulièrement, c'est de dire qu'en fait, tu me donnes tes papiers, n'est-ce pas? Le vœu honorable qui n'est pas réservé à nous, qui ne sont pas honorables, qui... Je ne vais pas revenir là-dessus parce que sinon je vais pleurer ici.
Que le monsieur nous disait, c'est pas sa couleur de peau, c'est son film.
C'est les histoires. C'est
on va continuer la visite.
Ouais, mais lui, il a été contrôlé, il n'a pas de film noir.
On va parler du bâtiment ici, sur lequel a marqué Bershka. Le siège d'une entreprise coloniale, enfin d'une entreprise, d'une association coloniale très importante, qui est assez particulière également parce qu'elle s'appelle l'Union des femmes coloniales. C'est l'une des rares associations coloniales de femmes.
Vous trouverez la maison coloniale de la femme au numéro 6068 de la chaussée d'Ixelles. Anonyme, sans plaque commémorative, où l'on vend maintenant des vêtements Bershka, mon nom est presque marqué dessus, Patrizia. Betsy, historienne d'art et militante, vous en parlera mieux que moi.
Le patriarcat, l'idéologie patriarcale et sexiste occidentale a été importée en Afrique. La situation des femmes n'était pas forcément aussi désavantageuse qu'elle peut l'être aujourd'hui. Dans l'histoire de la colonisation, le roi Léopold II, qui était le roi des Belges, ne s'est jamais déplacé au Congo. Il a toujours envoyé là-bas des personnes pour explorer le terrain et pour commencer à aussi... dresser une sorte d'évolution de l'homme en disant que les Africains vivaient comme à l'âge de pierre et qu'il fallait les amener à vivre comme les Européens blancs qui vivaient à l'âge de la modernité, de l'industrialisation. Et c'est une idéologie qui est encore très, très, très fortement ancrée de part et d'autre de l'océan. Le modèle, c'est l'homme et la femme blanche. Et donc, c'est là qu'intervient alors à nouveau cette femme blanche, puisque donc ce sont des hommes principalement qui sont allés au Congo pour effectuer ces conquêtes coloniales. Ça a changé le statut des femmes qui étaient présentes sur place, puisque ces hommes qui n'avaient pas de femmes se sont littéralement rués sur les femmes qui étaient présentes. Souvent, ils prenaient de très très jeunes filles, les filles des chefs souvent aussi, pour s'accoupler, et la plupart du temps ils ne les épousaient pas et ils les laissaient là avec la descendance. Après 1908, quand l'État belge a repris le Congo comme sa propre colonie suite aux divers scandales, on n'était pas du tout parti sauver les Congolais et les Africains, mais qu'au contraire, en fait, on les réduisait au statut d'esclaves pour pouvoir fournir du caoutchouc en Belgique, qu'on a volé le diamant, l'or, enfin bref, que finalement, c'était pas un modèle tellement philanthropique. Et donc, suite à cela, lorsque la Belgique a eu le contrôle de ces territoires-là, eh bien, la Belgique s'est aussi rendue compte que, mais que faire de ces enfants métis ? Ces enfants métis ont été enlevés à leur mère pour être placés dans des orphelinats ici en Belgique ou bien renvoyés dans la famille de leur père. C'est pas qu'il y a eu un ou deux cas, c'est qu'il y a eu des centaines et des centaines de cas. Donc c'était vraiment quelque chose de très problématique. Et donc pour revenir aussi à cette question du statut de la femme, quand l'État belge a décidé qu'il fallait absolument remédier à cette situation, eh bien ils ont décidé d'envoyer les épouses des colons, de les envoyer sur place. Et il fallait former ces femmes-là. Il fallait d'une part qu'elles satisfassent sexuellement leur mari, et puis d'autre part, il fallait qu'elles éduquent les femmes noires pour leur apprendre à devenir de bonnes ménagères.
Retournez sur la chaussée d'Ixelles, côté numéro pair, dépassez la boutique Baze et entrez dans la galerie Matongé. Avant de descendre les quatre marches, repérez le numéro 54 sur votre droite. Revenez-y dès que je vous le dirai, après une boucle dans la galerie. Madame Chapeau est mon modèle. Modéliste installée dans la galerie nouvelle quand celle-ci s'est ouverte, luxueuse, fréquentée par le tout venant. Elle a continué d'y créer ses vêtements et accessoires quand ses voisins commerçants se sont spécialisés vers les produits africains exclusivement. Adoptée par son entourage, elle y est restée jusqu'à sa retraite. devant parfois aller livrer à l'extérieur sa production pour des clients moins familiers à cette ambiance. La galerie de Matongué est un passage obligé pour les beignets de chez Chantal. On les déguste avec du beurre d'arachide, en apéritif lors de grands repas familiaux ou pour le goûter des enfants quand je me fais coiffer. Frais du jour, comme le pondou et d'autres spécialités. Et il ne faut pas passer trop tard dans la journée si vous voulez en trouver, comme le gingembre frais et le bissap, l'infusion de fleurs d'hibiscus que vous pourrez aussi trouver dans le frigo de chez Bruno, à l'entrée de la galerie Porte de Namur, près du métro. À côté, vous pouvez vite repérer une boutique spécialisée dans ces bijoux et accessoires venant de toute l'Afrique. Allez-vous rapporter un souvenir de notre voyage ? Sa voisine, je vous la recommande pour ses conseils et ses pots de beurre de karité, parfaits pour entretenir la peau, les cheveux et la barbe. Cette béninoise est toujours présente, parfois plongée dans ses jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Terminez la boucle dans cette galerie Matongué et revenez au numéro 54, en haut des quatre marches. Prenez le temps de regarder les peintures de Gaël. Gaël est un peu l'ange de cet espace, balayant, entretenant le lieu. Au fil des années, il a gagné la confiance, côté commune et côté utilisateur du lieu. Côté pratique, si vous avez des petits travaux à faire chez vous, il saura vous trouver les ressources humaines pour la plomberie, la peinture, aux tarifs locaux. Vous aurez alors le contact d'un jeune homme, peut-être celui que vous venez de croiser à l'entrée côté chaussée de Havre, celui qui vous a peut-être abordé pour vendre ses produits. Les fresques de Gaël, faites d'amour et de paix, s'affichent aussi dans la rue Longue-Vie et la rue de la Paix. En 2019, il a ouvert une galerie d'art vers la sortie côté chaussée d'Ixelles pour partager les talents artistiques du quartier. Au numéro 54, prenez la porte de gauche. Nous allons passer par les parkings.
Si vous êtes à l'aise, allumez la lampe torche de votre GSM. Ouvrez la porte du numéro 54, descendez un ou deux étages, nous sortons par le parking. Si vous ne le sentez pas, je vous offre un chemin parallèle. Redescendez les trois marches de la galerie. Nous en sortons pour aller chaussée de Wavre. Passez devant le numéro 23 sur le même trottoir. À droite.
Après le parking, tournez à droite.
Continuez vers la chaussée de Wavre, vers le numéro croissant.
Les hommes africains ont ouvert des commerces et surtout des cafés pour recevoir les riches Congolais et Congolaises
qui venaient pour le week-end du Congo à la suite de l'indépendance.
Ce sont souvent des métis ou des Antillais, les premiers qui ouvrent ces cafés, des Nyanga. Certains sont célèbres. Chaussée de Wavre, une boîte de nuit ouverte par un Antillais sous le nom de Marie Galante, est devenue au fil du temps le Cocody puis le Mambo.
À côté du Snack Delice.
Le Nyanga le plus historique était lui, Galerie Matongué. Son propriétaire, Jean Lubanda, l'avait appelé Matongué, comme le marché populaire des nouveautés de Kinshasa, la capitale, qui tient lui-même son nom d'un fruit qui pousse sur un arbre. Et quelques années plus tard, c'est la STIB qui écrit Matongué en dessous du nom de la station de métro Porte de Namur, officialisant une étiquette par tous utilisée que certains élus Ixellois avaient longtemps essayé de gommer. Tournez autour de la statue ou asseyez-vous en face de la rue Longue-Vie, la rue piétonne sur votre droite, avant le snack d'Élise.
On part de la statue de Freddy Tsimba qui s'intitule « Au-delà de l'espoir ». Freddy Tsimba, qui est un artiste contemporain congolais, qui est vraiment un des premiers artistes africains à avoir une œuvre d'art qui se trouve dans l'espace public belge. Freddy Tsimba travaille avec des douilles qu'il ramasse sur les terres de combat à l'est du Congo pour en faire des statues. Donc c'est une manière assez intéressante, je trouve, de transformer un petit peu ce désastre et en même temps d'alerter l'opinion publique sur ces questions. Le statut de la femme me paraît intéressant ici parce que le viol de la femme, le massacre de populations innocentes est souvent utilisé comme une arme de guerre à travers le monde, à travers le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est absolument typique de l'est du Congo. C'est vraiment c'est l'arme de guerre la plus facile qui est finalement aussi vieille que le monde. Par rapport à la situation à l'est du Congo, il faut savoir donc que dans les mines aujourd'hui, toutes ces mines qui sont contrôlées par des sociétés rwandaises et puis par des grosses multinationales qui viennent de partout dans le monde, les personnes qui vont récolter les matières premières qui nous permettent ici de parler de digital, que ce soit pour nos voitures électriques, que ce soit pour nos ordinateurs, que ce soit pour nos téléphones, eh bien, ce sont des enfants qui doivent aller dans ces mines au péril de leur vie. C'est très dangereux, ce sont vraiment des situations périlleuses. Les mamans qui laissent leurs enfants partir travailler dans ces mines sont tout à fait conscientes qu'elles risquent de perdre leur enfant, mais elles n'ont pas beaucoup d'autres choix parce qu'il n'y a absolument aucun moyen de subsistance autre dans ces régions-là pour le moment. Et donc, pourquoi ce sont des enfants qui y vont? Parce qu'en fait, il faut des petits corps assez agiles pour se glisser dans les différentes petites cavités. Non seulement ce sont des conditions dangereuses et périlleuses, mais qu'aussi il s'agit d'un véritable désastre écologique pour l'est du Congo, que les personnes qui vivent dans et autour de ces mines sont l'objet de cancers, de maladies diverses, et que tous ces produits polluent fortement la surface de la planète.
Continuez par la rue Longue Vie et tournez à droite, rue de la Paix. Je me souviens de mes jeux interminables dans la rue Longue Vie. Certains personnages familiers s'agitent autour. Les vendeurs, eux aussi, son papa. Mes enfants aiment patauger trempés sous le soleil par les jets de la place Fernand Coq.
Avant, la colline d'Ixelles était un village aéré par les quatre vents. À présent, le maillage urbain, trop serré, est étouffant. Aucun horizon visible.
Du temps de la colonie, les parents n'étaient qu'assistants avec les mêmes compétences. Ici, dans le passé, certains instituteurs disaient aux parents des petites filles « Si vous voulez, votre enfant n'a pas à apprendre le néerlandais. Elle a déjà tant à faire. Et puis, vous allez repartir là-bas, non ?» Cela ne lui servira pas. Au fil des années, une pièce a servi d'entrepôt dans notre maison familiale, pour ceux qu'on ramènerait là-bas à notre retour. Chaque rentrée scolaire, au vu de la situation politique de l'ancienne colonie, nous restions. Maintenant, ces meubles et ces lampes servent à l'installation de mes frères, de mes sœurs, pour les petits-enfants, en Belgique. Nos parents restent ici, eux aussi. Le vent ne passe plus dans les rues denses de ce haut de colline d'Ixelles. Les rues convergentes, en étoiles, n'offrent plus un souffle d'air, les étés étouffants. Je ne peux plus respirer. Étiquette qui me colle à la peau, littéralement, le plafond de verre existe. Faites demi-tour, toujours dans la rue de la Paix, à l'intersection avec la chaussée de Wavre. Continuez tout droit dans la rue de Dublin. Repérez bien la terrasse de la Calebasse, à droite. Nous y revenons en formant une boucle. À gauche, en passant par la rue de Londres. À gauche, en passant rue Alsace-Lorraine. Au-delà des clichés, les filles ont l'esprit pratique. Études d'infirmière, secrétariat, quand leurs frères, eux, entreprennent de longues études, comme leurs pères l'ont fait pour prolonger aussi leur titre de séjour. Rue Alsace-Lorraine, à côté du Vou, c'est là que la maison africaine installée en 1974 loge des étudiants africains, surtout des hommes venus d'Afrique, parfois d'Amérique du Sud.
Ils sont majoritairement trentenaires et souvent parents. Les chambres sont simples. La cuisine est au bout du couloir pour ceux qui ne sont pas en studio.
Le temps de cuisiner est souvent le seul en commun. On y parle parfois politique, job étudiant, comme le tri de courrier pour Bpost ou les courses en scooter pour Uber qu'on accepte en fin de journée d'études pour se libérer la tête. Les étudiants non boursiers doivent parfois aller chercher un visa dans un autre pays africain avant de venir en Europe, souvent pour la première fois. Ils découvrent alors le parcours administratif des migrants demandant une prise en charge par un résident belge, la Belgique n'étant pas la plus exigeante. Avant, les séjours étudiants pouvaient se compter en années. Maintenant, les étudiants viennent pour des stages de 3 mois, des spécialisations sandwich sur 2 ans, entre l'Europe et l'Afrique, la théorie et le terrain.
Je suis Joseph, j'ai 41 ans, je suis doctorant en géologie. C'est ma deuxième année de suite en Belgique. J'ai fait mes études d'ingénierie en France. J'ai choisi la Belgique parce que la Belgique, c'est le seul pays qui peut te permettre de faire un doctorat sans financement. Je ne suis pas boursier. En Afrique, j'ai travaillé. Je suis un ancien fonctionnaire de l'État chez moi. Le passage en France, c'est un passage vraiment primordial pour moi. C'est ce qui m'a permis de comprendre l'Europe en général. Mais la Belgique m'a permis de comprendre la vie en Europe. Parce qu'il y a l'Europe, il y a la vie réelle en Europe d'un étudiant qui n'a pas de financement. C'est là que vous comprenez le problème. Comment ça se passe pour avoir un séjour? C'est là que vous comprenez réellement les vrais problèmes des étrangers. Parce que je ne veux pas dire africains, mais des étrangers en Europe. Si le jour que je suis à mon doctorat, j'ai mon travail chez moi, je rentre automatiquement. Parce que je ne veux pas rester, devenir en compétition avec les Européens eux-mêmes qui s'en peinent pour avoir de l'emploi. Et puis, je finis de faire un doctorat, je deviens ouvrier de production, quelque part. Et je pense que chez nous, il suffit de travailler tout jusqu'à quand, dès qu'on a sa chance, on a l'opportunité d'être riche. En Europe, on ne devient pas riche. Les riches sont les anciens riches et les nouveaux riches, ça n'existe pas. Il y a plus d'opportunités de devenir riche, de devenir un don d'affaires, d'avoir une belle carrière en Afrique qu'en Europe, pour un Africain, que qui ce soit. Même les Européens, s'ils veulent aller investir en Afrique, c'est un bon terrain où ils vont investir et ils deviennent riches. Moi, je suis Camerounais et je travaille sur les formations des lithosphères anciennes, comment la terre ancienne s'est formée et ses relations avec la mise en place des minéralisations, ça dit les gisements miniers, tout comme ça. Sur le plan appliqué, la recherche des ressources minières, la recherche des ressources en eau, le suivi des problèmes des géorisques liés à la géologie, oui, principalement les catastrophes naturelles, comment on peut les gérer, tout, les problèmes des glissements du terrain et autres. On peut aussi les appliquer, par exemple, dans le développement, sur la construction des barrages, la construction des routes. On peut aussi appliquer en environnement. Il y a quelque chose de magique en Afrique qu'on ne trouve pas en Europe. Malgré la pauvreté que nous avons en Afrique, mais nous sommes des gens qui sont riches. Il y a quelque chose de merveilleux en Afrique qui me manque ici. Il ne suffit pas d'avoir des belles routes, des belles voitures, des belles maisons pour être heureux. Mais on a de la famille, on a la communauté. C'est cette communauté, ça me manque. Ça me manque.
L'Europe, les étudiants la connaissent depuis longtemps. À travers les médias, les expatriés et les migrants refoulés. Mais c'est aussi autre chose d'entendre dans la rue un enfant répliquer à ses parents ou de voir des amoureux du même sexe s'embrasser. Pour eux, cela ne se fait pas. Tout simplement. L'homosexualité ne s'affiche pas en Afrique. On peut se faire tabasser, être menacé et devoir prendre le chemin de l'exil pour obtenir un passeport européen et être enfin un peu protégé dans ces circonstances. La Direction générale de l'Office des étrangers ne peut enquêter dans le pays d'origine dans le cadre d'une demande de réfugié. Toujours est-il que pour venir en Belgique, des sœurs, elles, prennent le chemin du mariage. Quelques années plus tard, si le couple ne tient pas, ou était purement administratif, elle aura acquis assez de droits et un réseau de copines lui permettant de divorcer et de rester en Europe.
Samba est un ami consciencieux. Son avocat lui a dit qu'il avait tout bien construit son dossier de régularisation. Travaille en règle, comme plongeur, pendant des années en CDI. Maintenant, le seul moyen d'accélérer la procédure est d'épouser quelqu'un avec des papiers et de faire un enfant. Bien sûr, Samba aimerait dans l'idéal trouver la perle rare, l'amour et le confort d'un foyer avec une jeune femme. Mais côté relation, à Matongé, les questions de papiers viennent souvent très rapidement avant celles du cœur.
Rester à proximité de la terrasse de la Calebasse, au croisement de la rue de Dublin et d'Alsace-Lorraine, au croisement de la rue de Dublin, une salle privée accueille plusieurs types d'activités.
Ok, j'ai encore 5 minutes. L'histoire courte, mon partenaire Andrés, il a commencé le tango bar, donner des cours de tango il y a 17 ans déjà. D'accord. C'était un des premiers endroits. Moi, je suis arrivée ici il y a 5-6 ans. Normalement, on fait d'abord un cours d'une heure et demie, deux heures, et après, c'est la pratique. Ça s'appelle la milonga. C'est espagnol. Tango, c'est la danse, et milonga, c'est où on va danser. Pour compliquer les choses, milonga, c'est aussi une danse dans le tango. C'est ouvert à tout le monde. Hein. J'arrange que j'ai des couples, et normalement, Moi, je préfère que les gens qu'ils s'arrangent eux-mêmes parce qu'alors ils vont avec la personne qu'ils veulent. Le match entre les personnes, tu ne peux jamais. Le tango, c'est aussi quelque chose, c'est une rencontre culturelle aussi. Parce que c'est, ça, c'est plus ciblé, je trouve. Le tango est plus ouvert dans l'âge et dans les métiers.
Madame, alors si j'ai dit mon âge, ils vont dire « Ouais, je ne veux plus danser avec un vieux. » Non, je m'en fous plus. En français, on dit 70. En Belgique, 69. Merci. Moi, je suis un vieux, je danse avec n'importe quoi. Mais normalement, mes vraies chaussures sont dans la voiture pour tout à l'heure. Ah, ouais, je vais danser avec une belle dame comme ça, je ne veux pas. Il faut que ça tienne. Et ces chaussures-là, je dois dire qu'elles sont extraordinaires. Parce qu'au début, c'est un peu grand, mais à fur et à mesure qu'on danse,
oui, j'ai travaillé jusqu'à
ça c'est juste. Voilà. Et à la fois, ça glisse. Ouais, elle m'a pas dit bonjour aujourd'hui. J'étais... Ouais, moi, j'étais vu, j'étais avec un monsieur, deux messieurs, là, au bar béton, j'étais parti au bar béton voir un verre. Et moi, j'étais en face.
Ah, en train de papoter avec quelqu'un d'autre.
Voilà, j'ai dit, je ne veux pas d'être.
Attention, hein, parce qu'il boit tout. Hein.
J'ai dit, quelle belle fille. Et maintenant, j'ai compris. Hein. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, bébé, on va y aller. C'est pas le réclame. Hein. Si vous voulez, on peut aller jusqu'à là, faire un tour. Hein. Grissel. C'est toute une histoire, Grissel.
Retourner dans la chaussée de Wavre, sur la gauche, en face, au numéro 89, vous trouverez une épicerie. Ce sont les mêmes commerçants congolais depuis 30 ans. La maman a été rejointe par sa fille et son fils après leurs études.
Ce sont des prunes sauvages. Ça s'appelle safou. Et là, elles sont très dures, mais pour les manger, on les ramollit dans de l'eau bouillante. Et alors, on couvre le bol avec une assiette ou autre, un couvercle. Et on laisse comme ça pendant 5-10 minutes. Ça se ramollit. Et puis alors, on sait le manger.
On mange tout.
L'intérieur, il y a un noyau à l'intérieur qu'il ne faut pas manger. Le safou, il est connu pour aider à dormir, en fait. Il est un peu. C'est un effet un peu... Je sais que certaines personnes qui ont des problèmes pour dormir, ils en prennent un peu le soir.
Ça, ce ne sont pas des épices, ce sont des noix de cola. Les noix de cola sont assez bonnes pour tout ce qui est donner de l'énergie au corps.
Merci,
bonne journée. Le petit cola, les personnes qui boivent de la bière l'utilisent souvent parce que ça nettoie le foie. Et aussi, ça a plein de propriétés, notamment diminuer le sucre dans le sang, garder une bonne santé. Ça se mange comme ça directement, il faut juste laver un peu, diminuer la petite peau qui est autour.
Ce qui vient typiquement du Congo, c'est une boule qu'on appelle Mukubi. Ça, on le met dans le pondou. Mm-hmm. C'est un peu la même fonction que la feuille de laurier. On ne le mange pas, on le trempe juste dans les légumes. Ça diffuse l'odeur.
Et ça, c'est la même chose, mais en bâton. C'est aussi pour le pondou.
Ici, bonjour. Hello.
It's Google, how are you?
I'm good, thank you.
Okra plantain.
2,50€. Ce sont les produits qui viennent du Congo, comme la chikwang. En fait, c'est du manioc qui a déjà été donc travaillé. Ça a été écrasé, bouilli et alors mis sous forme de bâtonnet en pâte en fait. Et donc c'est déjà prêt à manger. Disons que c'est la partie féculente du repas. Donc après on ajoute des légumes et du poisson ou de la viande. Et elle est emballée dans une feuille de bananier, oui.
On le réchauffe comment ?
Généralement au micro-ondes. À l'ancienne, ça se faisait à la casserole, mais on le mettait dans un sachet plastique et on met dans de l'eau bouillante. D'accord. Pour que l'eau ne rentre pas dedans.
Okay.
Mais maintenant, c'est micro-ondes.
Ça, en fait, ce ne sont pas des épices. C'est, les hommes utilisent ça plus comme un aphrodisiaque. Ils le trempent dans la boisson et alors...
Et ça a un nom ?
Kitamata. Kitamata. Et ceci, c'est un...
Madame, on a emmené quelque chose de très précieux.
Oui,
du piment.
Oh. Du piment en poudre ou bien liquide ?
Quand vous le pouvez, tournez rue de la Tulipe, entre le 115 et le 117 de la chaussée de Wavre. Au numéro 34, rue de la Tulipe, tournez à gauche, arrêtez-vous au numéro 1, rue Jules Bouillon. Sur le bâtiment Rabelais, l'ancienne Athénée, lisez la plaque.
Je crois que je n'aurai pas le temps de vous parler de tous ceux que vous avez déjà peut-être croisés sans le savoir et qui animent le quartier. Ils sont nombreux, mais au hasard, je vais vous parler de certains un peu incontournables. Matongué est tellement pluriel que je revendique sans crainte de ne pas parler de tous.
Un des ancrages africains le plus pérenne dans ce quartier est le café de l'Horloge du Sud. Il s'appelle aussi l'Horloge du temps de la colonie. Autrefois, pour rentrer et accéder au premier étage, celui des initiés, il fallait acheter tant de jetons de boissons que seuls les nantis pouvaient s'y substanter. Son propriétaire est maintenant échevin de la culture d'Ixelles.
Musicien, acteur et socio-anthropologue venant du Sénégal,
Ken Diaye a toujours ouvert ce lieu, dont il a gardé les banquettes originales, à des liens nord-sud. L'Horloge du Sud avait à sa carte du poulet bicyclette il y a plus de 20 ans.
Et si tu préfères la cuisine asiatique, le restaurant d'à côté, au 139 avenue du Trône, est tenu par deux femmes. Un ami nafteur y passe régulièrement en rentrant chez lui et trouve l'une d'elles très souriante. La soupe au poulet est copieuse. Côté peau blanche et cœur noir, Philippe, Mr. T, a ouvert une bibliothèque rue de la Tulipe. Il a grandi à Anvers. Après un court contrat en Afrique, l'entreprise fait faillite. Il rentre en Belgique, mais en passant par Matongué. Au fil du temps, il rejoint l'environnement de son enfance en alignant des livres sur l'Afrique dans la bibliothèque Lumumba, qu'il a créée rue de la Tulipe. Ses livres, il les trouve à la place du jeu de balle, le marché de seconde main à deux pas de la gare du Midi. Son surnom, Mr. T, vient d'une série américaine du nom d'un personnage mythique, noir, baraqué et à la crête d'Iroquois. Son coiffeur, rue d'Édimbourg, sait parfaitement comment tracer un grand T sur sa nuque, avec son rasoir. Si vous le croisez, vous le reconnaîtrez. Ces dernières années, Mr. T a pris des initiatives artistiques, comme par exemple exposer des tableaux d'artistes contemporains africains dans les cafés et restos du quartier, ceux qu'il connaît bien. Ils sont du style de Sherry Samba que vous avez vu chaussée d'Ixelles. Des commandes venues directement du Congo sur le thème de l'Afrique. L'été 2020, il a convaincu le patron du restaurant Le Tam Tam,
au 72,
chaussée de Wavre, à côté de Kumba, le centre culturel flamand, de faire peindre une fresque dont le sujet est le Matongué de Bruxelles et ses figures locales. Le visage de Mr. T est même représenté en grand au-dessus du palais de justice. Philippe est déterminé à mettre en avant Patrice Lumumba, cette figure politique montante au Congo dans le sillage de l'indépendance en 61. Lumumba assassiné. Philippe, avec d'autres personnes, a milité pour qu'une place à Bruxelles lui rende hommage. Mr. T et des voisins et autres militants ont accroché une fausse plaque de rue, rebaptisant Place Lumumba, la place Athénée. La commune d'Ixelles, elle, redoutait que l'espace choisi devienne un lieu de revendication. En 2020, à la sortie du métro, porte de Namur, si vous traversez la file des taxis en attente de clients, vous serez sur la place Lumumba, qui appartient à la ville de Mille, Bruxelles. Un compromis à la Belge.
En tout cas, allez lire Porte de Namur, les plaques informatives sur Lumumba. Ou à l'occasion, écoutez Lettre à ma femme, la chanson du chanteur belgo-congolais Badi, qui scande ici une lettre de Lumumba, bon orateur. Êtes-vous arrivé devant le bâtiment Rabelais ? Cette ancienne Athénée a été l'annexe de l'INSAS. Parfait pour les étudiants de théâtre, qui nous en donnent quelques échos.
Les étudiants de théâtre font que c'est une école de théâtre.
L'infrastructure est comme une Athénée royale, ça oui, mais ça fait depuis...
Il y a beaucoup de résonance, non, c'est pas une...
C'est pas idéal pour le théâtre.
Il y a une aile qui s'appelle l'aile délabrée, où on peut beaucoup travailler, et là, c'est acoustiquement, c'est horrible, enfin, ça résonne tout le temps. Mais moi, j'aime bien, enfin, du coup, t'apprends pas mal de choses pour l'articulation, enfin... Du coup, tu dis une phrase, puis tu dois attendre qu'elle ait fini de résonner pour en commencer une autre. C'est paradoxal, c'est une des plus grandes richesses de l'INSES, qu'on soit dans un lieu délabré. Ils nous apprennent à faire avec ce qu'on a. En même temps, à côté, on a une grande salle avec un parquet et des magnifiques rideaux. Et, donc, t'as les deux, tout me va. Du coup, ça me gênerait pas maintenant de devoir faire dans un coin de rue. En me disant, c'est là que tu dois faire ta mise en scène. Je le ferai, quoi.
Place Rabelais, vous trouverez une plaque commémorative sur le bâtiment Athénée. Cet étudiant prônait le panafricanisme, c'est-à-dire l'union des Afriques. Union qui ne s'est jamais faite, utopique, car le continent est trop grand et la population trop diverse. Place Athénée, vous trouverez la plaque Place Lumumba, accrochée à l'arrière de l'église Boniface. J'espère que je vous ai donné assez de repères pour que vous me gardiez maintenant avec vous dans votre tête. Moi qui parfois dois m'éclipser.
Matongué est pour moi cette amie que l'on peut aller voir quelle que soit son humeur. Si elle est là, vous ressortirez de cette visite avec une meilleure énergie, même s'il arrive que vous vous disputiez. Le temps partagé est ce qui peut être le plus précieux. Alors je vous remercie déjà d'être venu avec moi, d'avoir fait le chemin.
J'aurais voulu vous amener encore plus loin, dans le quartier, mais je n'ai plus le temps. Alors je laisse Wetsi vous accompagner. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur Matongué, son cœur africain, son passé colonial dans cette création sonore. Détournant le temps partagé. S'il y a assez de dons, nous nous reverrons pour partager une suite sur Matongué, autour de la parole donnée. Il est temps. Revenez sur vos pas, vers la gare du Midi, via la rue Longue-Vie, en passant par la rue Bourret, ou via la chaussée d'Ixelles, par la rue de l'Athénée. À vous de choisir.
Puisqu'il faut savoir que finalement, notre histoire, on reste dans une tradition très orale. On parle aux gens, mais on n'a pas forcément l'habitude d'écrire des livres, de laisser des choses qui vont être écrites dans la pierre. C'est assez naturellement qu'on a repris des visites décoloniales du quartier et que finalement nos visites décoloniales étaient féministes puisque on est un collectif de femmes et que forcément ça se retrouve un petit peu dans nos centres d'intérêt, dans la manière dont on va vouloir mettre en avant aussi les femmes entrepreneurs du quartier ou de la communauté congolaise en général. Donc il y a Mireille Thiossi-Robert, il y a J.A. Brassard qui a créé l'espace Café Congo où la Wetsi Art Gallery a pu s'établir. Il y a également Pépite Blues avec Célestina Yorgue qui a fondé la librairie où on peut aller découvrir des auteurs afro-descendants de partout dans le monde qui se trouve aussi à Matongué. Il y a le restaurant Insia qui est aussi tenu par une femme, Monique Faudry. Il y a aussi un restaurant qui s'appelle La Signare qui est aussi tenu par une femme. C'est vraiment tout un réseau finalement assez informel. Ce sont toutes des rencontres dont je me rends compte qu'il est nécessaire en fait d'en parler, que moi je sais que j'ai mes neveux qui vont souvent à Matongué pour faire leurs courses, pour aller chez le coiffeur, et qui ne savent pas qu'il y a des artistes comme Rod Batsheba Makumbu qui habitent là, qui ne connaissent pas l'existence de la maison africaine où leur maman allait fêter la Saint-Nicolas quand elle était plus jeune, les Saint-Nicolas qui étaient organisés par la baronne Monique, mademoiselle Monique, tout ça c'est ma mère qui m'a raconté, parce que moi voilà, je suis historienne de l'art de formation, mais donc j'ai toujours eu cet intérêt pour l'histoire, pour le passé, donc ma mère a pu me transmettre différentes choses. Pour moi, le quartier Matongué change, mais comme le monde change, comme la ville change, le quartier Matongué aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'il était par le passé. Premièrement, il y a les institutions européennes qui se sont installées, qui ont créé un phénomène de gentrification. On a même voulu à un moment appeler le quartier des continents et puis le quartier Matongué. Mais bien entendu, les Africains, les Afro-descendants n'habitent pas spécialement dans ce quartier-là, n'habite pas spécialement ni à Ixelles, ni dans ce quartier-là d'Ixelles. Ici à Anderlecht, donc le Café Congo, j'ai pu créer ici mon espace Galerie d'art pour vraiment organiser de manière professionnelle la promotion des artistes contemporains, afro-descendants de Belgique et aussi du continent. C'est quelque chose de très important puisque la culture africaine serait quelque chose de subalterne, qu'elle ne deviendrait intéressante que si un homme ou une femme blanche décide que c'est intéressant, décide de la mettre sur un piédestal, décide de la mettre derrière une vitrine à travers laquelle il peut bien sûr toujours voir son reflet. Il y a effectivement aussi cet espace à Anderlecht, mais cet espace se trouve à Anderlecht aujourd'hui et pourrait très bien être délocalisé à Ixelles, à Matongé demain, puisqu'il se trouve aujourd'hui dans un espace sur un ancien site industriel amené à être détruit ou rénové d'ici 2023-2024. Dans la balade suivante, vous entendrez parler de Chirac, une ancienne collégienne de Saint-Boniface, Rodin et le béguinage, Nico et de sa casquette, le parc du 133, une balade littéraire,